Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
On sait, avec les récents travaux des historiens de l'Antiquité qui se sont penchés sur ces questions, que dans l'Antiquité grecque et romaine, l'amour n'avait vraiment rien à voir avec ce qu'on nous montre dans les péplums. Il était très codifié. Pas question pour le pater familias romain que sa fille, future matrone, puisse prendre du plaisir avec son époux comme si elle n'était qu'une simple courtisane. Le déshonneur en aurait été extrême. Comme l'écrit Paul Venn, le monde romain est contracté et puritain. Françoise Estève faisait en 2002, dans une série de Chemin de la connaissance consacrée à une histoire du couple, le point sur les formes de l'amour dans l'Antiquité. Voici la première des 5 émissions intitulée « Les deux Aphrodites ».
Les courtisanes, nous les avons pour le plaisir. Les concubines pour les soins de tous les jours, les épouses pour avoir une descendance légitime et une gardienne fidèle du foyer.
L'histoire du couple en Occident est une aventure périlleuse, car délicate à cerner et par la même ambiguë. Quelle approche doit-on privilégier ? Celle du mariage, institution sociale, avant d'être érigée en sacrement ? Celle du sentiment amoureux ? Celle du comportement sexuel ? Ces diverses composantes entrent dans l'élaboration de la notion de couple, mais suivant les époques, elles ont été dissociées. L'histoire du couple ne suit pas une évolution linéaire. Chaque culture a inventé ses modes d'union basés sur des stratégies sociales, politiques, économiques, morales et sexuelles différentes. Parler de la famille et du couple dans l'Antiquité grecque et romaine, c'est prendre en compte le rôle des concubines et des courtisanes, c'est évoquer les relations puissantes qui unissaient les hommes entre eux dans des sociétés profondément inégalitaires qui dévaluaient le féminin. Au cours de ces 5 émissions, qui ne se prétendent pas exhaustives, des spécialistes de l'Antiquité, des médiévistes, des sociologues évoqueront dans un survol historique les différentes conceptions du lien conjugal, méprisé ou valorisé, les structures de parenté, les échanges de biens matériels et symboliques, le statut de la passion amoureuse vécue dans la fusion ou la douleur destructrice et les variations du comportement sexuel. Ceci jusqu'au couple monogame actuel, couple volontaire, égalitaire, conquête progressive de la démocratie qui seule permet l'intimité affective et sexuelle. Jean-Claude Bologne, qui a sondé les arcanes du sentiment amoureux, évoque aujourd'hui pour nous les modèles complexes du couple dans l'Antiquité grecque.
L'histoire de Périclès et d'Aspasie est tout à fait symptomatique à la fois de ce qu'on recherche et de ce qu'on fuit. Lorsqu'on parle de couple, effectivement, c'est pas seulement homme-femme, c'est aussi un couple fondé sur le mariage, sur le sentiment ou sur la passion sexuelle. Ce sont trois choses qui, aujourd'hui, nous semblent complémentaires. On ne concevrait pas d'avoir un couple marié qui ne s'aime pas et qui ne fasse pas l'amour. Mais à d'autres époques, on a pu séparer très nettement ces trois couples fondamentaux. Et dans l'histoire de Périclès et d'Aspasie, on a l'exemple type, je dirais, d'une transgression qui montre bien les problèmes que posaient ces différents couples à l'époque athénienne. Alors que s'est-il passé? Nous sommes vers 450-453 avant notre ère, le grand siècle d'Athènes. Périclès, tyran d'Athènes, divorce, renvoie sa femme pour se mettre en ménage avec Aspasie, une milésienne, une femme de Milet. Scandale énorme à l'époque. Pourquoi renvoyer sa femme? Parce qu'on veut en prendre une autre? Ce n'est pas un scandale du tout. Mais que cette femme soit une étrangère, grecque, mais d'une autre cité, milésienne, ça pose un problème fondamental. Par des lois que Périclès d'ailleurs a édicté lui-même, il lui est impossible d'épouser Aspasie, parce qu'il ne peut épouser qu'une Athénienne. Renvoyer une noble Athénienne pour prendre sous son toit une femme qu'il ne peut pas épouser est déjà un premier scandale. Que cette femme soit milésienne, que soit d'une autre culture grecque que la sienne, est un second scandale, parce qu'à Athènes, les femmes sont assez strictement cloîtrées dans leur gynécée. Dans les colonies grecques d'Asie mineure, comme Milet, la condition de la femme est un peu plus libre. C'est de ces colonies d'Asie mineure, de Lesbos par exemple, que nous est venu l'exemple de Sappho, qui reste un des mythes de la femme libre, et la femme libre d'aimer dans l'Antiquité grecque. Donc c'est un conflit de deux civilisations, entre une femme cloîtrée dans son gynécée et une femme un peu plus libre, qui va se produire à ce moment-là.
Femme libre et très, très intelligente, enfin,
et
participant
en plus,
à la vie publique,
femme, voilà,
recevant
femme
des
libre,
philosophes.
Femme libre à Athènes, ça veut dire que la maison de Périclès et d'Aspasie va devenir un centre culturel, un foyer culturel de la vie athénienne. Les hommes politiques, les philosophes, les écrivains vont la fréquenter. Petit à petit, voyant le bonheur de Périclès avec Aspasie, ils vont amener même leurs femmes, ce qui devient impensable dans l'Athènes antique. Et donc, le scandale est plutôt cela, de voir la femme sortir du gynécée. Plutarque, qui nous a conservé une bonne partie de cette histoire d'Aspasie et de Périclès, nous donne un exemple très, très caractéristique. Il dit que c'était plutôt l'amour qui a inspiré Périclès. Et lorsqu'il sortait pour aller à l'Agora, pour aller sur la grande place, lorsqu'il sortait, il embrassait sa femme. Et ça lui paraissait extraordinaire de voir un mari, même s'ils ne sont pas officiellement mariés, embrasser sa femme en sortant de sa maison. Donc là, il y a vraiment un nouveau type de rapport entre l'homme et la femme qui vivent sous le même toit, qui va profondément bouleverser la vie d'Athènes, à tel point qu'Aspasie est restée comme le type même de la courtisane, non pas de l'épouse, non pas de la concubine, mais vraiment la courtisane qui a dévoyé Périclès, et qu'elle va être accusée, elle va passer en jugement, et on verra cette scène pitoyable de Périclès venir pleurer devant les juges d'Athènes pour obtenir la grâce d'Aspasie. Donc il y a là-bas une transgression d'un modèle assez simple, la femme cloîtrée dans son gynécée ou dans ses appartements, et l'homme qui vit une amitié virile, éventuellement une amitié virile amoureuse, modèle qu'on retrouve dans d'autres cités grecques. À Sparte, le Lycurgue aurait promulgué des lois, toujours selon Plutarque, selon lesquelles le jeune homme jusqu'à 30 ans est marié, bien entendu, mais il ne voit sa femme que la nuit pour lui faire des enfants, dans le noir pour éviter de tomber amoureux d'elle, et puis il rejoint sa caserne où il vit très probablement une amitié amoureuse avec d'autres jeunes gens. Et là, il y a un modèle que l'on a dans deux cités qui semble assez clair. L'amitié amoureuse vis-à-vis d'une femme passe pour amollir le cœur de l'homme. L'homme qui se laisserait gouverner par une femme est vraiment méprisé, tandis que l'amitié virile entre deux hommes est censée au contraire exalter la vertu, et notamment la vertu militaire. L'idéal d'Athènes, c'est Socrate et Alcibiade qui combattent côte à côte et qui s'encouragent par l'amour qu'ils se portent à se battre et à être vertueux. Donc l'exaltation de l'amitié masculine, éventuellement sexuelle, pas dans le cas de Socrate et d'Alcibiade, mais dans un cas apparemment assez largement répandu, est un encouragement à la vertu militaire. Et c'est ce modèle-là donc qui va éclater avec Périclès et Aspasie.
Vénus au fond de notre âme, allume un feu dévorant.
Vénus au fond de notre âme, allume un feu dévorant.
Malgré cette ardente flamme, s'il est un mari voulant, pour lui seul garder sa femme, nous lui dirons en chantant.
Ah, ah, ah,
ah,
ah,
ah.
Val-de-Cade, le gêneur. Oui, c'est un encouragement à la vertu militaire, mais pas simplement. Par exemple, si on prend ce couple qu'aura formé Platon avec ce jeune prince sicilien Dion, dont il a été extrêmement épris, puisqu'il écrit même que l'amour a introduit le délire dans son cœur. Donc là, on frôle un amour déraisonnable, et pourtant cet amour va être totalement sacralisé. Et c'est à travers cet amour qui a quand même un enracinement charnel, que l'on ne peut pas nier, puisque Platon a été bouleversé par la beauté de ce jeune homme, c'est à travers cet amour charnel qu'il atteindra enfin la beauté éternelle.
Oui, alors le problème effectivement de l'Antiquité, qu'elle soit grecque et puis romaine, au début de l'Antiquité chrétienne, c'est que l'amour est vécu comme une passion divine, c'est-à-dire qu'il y a son origine dans les dieux, puis dans Dieu dans l'Antiquité chrétienne, dans les dieux, et donc qui va emporter l'homme au-delà de sa condition de mortel. Parfois dans un sens tout à fait positif, c'est ce qui va amener l'homme à la beauté supérieure, c'est tout l'amour platonique. Parfois dans un sens tout à fait déraisonnable, c'est tout le problème de la mania, la folie amoureuse définie également par Socrate d'ailleurs. Et c'est cette mania qui peut dériver sur des actes tout à fait déraisonnables et sur une fureur amoureuse, une fureur passionnée, malheureuse. Dramatique. C'est tout le ressort de la tragédie grecque. L'amour conçu comme une vengeance divine contre quelqu'un qui a blasphémé contre Vénus, Aphrodite ou contre Eros, et qui va vraiment aller dans le déraisonnable. Et à ce moment-là, effectivement, les théories de Socrate-Platon, théories développées par Socrate dans le banquet, mais le banquet était réécrit par Platon, le but de l'amour platonicien, je dirais, est de canaliser un peu cette folie amoureuse pour essayer de montrer qu'elle peut amener à la contemplation de beauté supérieure. Socrate était un des familiers d'Aspasie et de Périclès. Donc lorsqu'il définit, 30 ans après le scandale de Périclès, les théories de l'amour, il a toujours en arrière-plan, ce scandale et cette transgression de Périclès.
Mais à laquelle il a participé, puisqu'il se rendait lui-même chez Périclès.
À laquelle il a participé, oui. Mais qu'il va expliquer. Et dans le banquet de Platon, finalement, il y a toute une série de théories de l'amour dont beaucoup sont restées très célèbres, qui sont envisagées, et toutes ont à peu près la même leçon. Il y a deux amours, un qui est beau, qui est noble et qui se dirige plutôt vers les garçons, et un qui est plutôt terrestre, matériel, et qui se dirige plutôt vers la femme. Alors, dans ces théories célèbres, il y a celle des deux Aphrodites, donc des deux Eros, les deux amours, les deux beautés, les deux Aphrodites, qui est dite par Pausanias. Il y aurait une Aphrodite d'origine céleste qui engendrerait un amour céleste, un amour noble, et c'est l'amour que l'on connaîtrait pour les garçons. Tandis que l'Aphrodite populaire, terrestre, engendrerait un amour terrestre dirigé vers l'engendrement, vers la génération, et donc dirigé vers les femmes. Bon, là, donc déjà une sorte de mépris de cet amour conjugal qui va aller vers la génération, vers la descendance. Dans la théorie tout aussi célèbre de l'androgyne, qui est donnée de façon un peu plus parodique dans le banquet de Socrate, le banquet de Platon, on a la même leçon. Quelle est cette théorie ? Effectivement, l'homme aurait été composé au départ d'une essence double, aurait été composé de deux personnes qui auraient été séparées par les dieux. Si ces deux personnes étaient deux hommes, les deux moitiés qui essayent de se retrouver vont engendrer un couple homosexuel. Si c'était deux êtres féminins, ça va engendrer un couple lesbien. Et si c'était un homme et une femme qui ont été séparés et qui doivent se retrouver, ça va engendrer les amants adultères, non pas les époux, mais cette furie, cette passion qui pousse un homme à quitter sa femme pour prendre une maîtresse. Ce sont deux moitiés qui se reconnaissent, qui se retrouvent et qui veulent reconstituer l'androgyne originelle. Donc à nouveau, une sorte de condescendance, de mépris pour l'amour conjugal qui ne parvient pas à engendrer cet amour, un amour aussi fort. Quant à la théorie dite par Socrate lui-même, elle arrive au même résultat. Il dit, l'amour, c'est finalement c'est le désir d'engendrer dans la beauté. Si on veut engendrer dans la beauté corporelle, on a l'amour de sa femme, l'amour conjugal, on va engendrer des descendants. Et si l'on désire engendrer dans l'âme, ce qui est beaucoup plus noble, on va engendrer dans l'âme d'un disciple. Et bon, on va passer à une forme un petit peu plus noble que la pédérastie, on va avoir ce que Socrate appelle la pédagogie, enseigner à un jeune enfant sans avoir de rapport sexuel avec lui, là nous sommes dans ce qu'on va appeler plus tard l'amour platonicien, permet de connaître ce plaisir d'engendrer dans la beauté, mais de façon beaucoup plus pure, puisque la chair n'est pas atteinte. Toutes ces théories, donc, arrivent au même résultat, et tout ce qui va vers la femme, tout ce qui va vers l'amour conjugal, est nécessairement inférieur à tout ce qui va vers l'âme, vers l'Aphrodite céleste, vers l'engendrement dans la beauté de l'âme.
Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas.
Ménélas.
Je crains bien qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, qu'un jour Hélène, je le dis tout bas.
Dis tout bas.
Ne me fasse de la peine, n'en dissipons pas. Je suis l'époux de la reine, époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas, le Ménélas.
Il est l'époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas. Il est l'époux de la reine, époux de la reine, le roi Ménélas.
Ô Zeus, pourquoi donc as-tu infligé aux humains ce frauduleux fléau, les femmes, en l'établissant à la lumière du soleil? Si tu voulais propager la race mortelle, ce n'est pas aux femmes qu'il fallait en demander le moyen. Contre de l'or, du fer, ou un poids de bronze déposé dans tes temples, les mortels devraient acheter de la semence d'enfants, chacun selon la valeur du don offert, et habiter des maisons affranchies de l'engeance femelle. Mort à vous! Ma haine des femmes, jamais je ne l'assouvirai. Prière d'Hippolyte. Euripide.
Il faudra, pour dépasser cette sorte de mépris de l'amour conjugal, une toute autre conception qui vient d'Aristote, tout simplement. C'est Aristote, à la différence de Platon, à la différence de Socrate, heureux en ménage, va au contraire développer une théorie de l'amour conjugal. Mais cet amour conjugal ne peut pas être cette folie socratique venue des dieux qui va bouleverser la vie de l'homme que nous avons vu chez Platon et dans la tragédie grecque. C'est au contraire un amour assagi. C'est ce qu'il appelle une philia, une amitié amoureuse. Et il va dire, mais oui, il est possible d'aimer sa femme. Simplement, ce n'est pas cette grande passion dévastatrice que l'on connaît sous le nom d'Eros. C'est une sorte de complicité, d'amitié sentimentale qui va permettre d'assurer une vie de couple stable.
Mais est-ce que cela ne signifie pas également que la femme est exclue du côté sublime de l'amour? Elle est exclue de la spiritualisation de l'amour.
Dans l'antiquité grecque, athénienne et je dirais achéenne en général, oui, la femme est cloîtrée dans son gynécée. Ce n'est pas le cas dans les colonies grecques d'Asie mineure. Et je rappelle que Lesbos, Sappho, était prêtresse de l'amour. Donc là, il y avait une spiritualisation de l'amour tout à fait possible. Et il faudra attendre le néoplatonisme des premiers siècles de notre ère pour que toutes ces superbes théories de Socrate sur l'amour soient aussi appliquées à la femme, avec Plutarque notamment, et surtout avec Plotin, qui permet à l'amitié conjugale que l'on peut avoir avec sa femme d'atteindre des sommets d'exaltation aussi importants que ce que Socrate vivait vis-à-vis de jeunes gens. Mais là, ce sera vraiment les premiers siècles de notre ère. Et c'est à partir effectivement de ce néoplatonisme qui va rendre à la femme un rôle absolument prépondérant dans l'amour le plus pur que les théories chrétiennes vont pouvoir s'établir. On dit toujours que le Moyen-Âge chrétien est platonicien. Non, il est néoplatonicien, il est plus fondé sur les idées de Plotin que de Platon. Et effectivement, dans la pensée chrétienne, nous allons retrouver uniquement dans l'amour conjugal le modèle pur que Socrate vivait dans l'amour des jeunes gens. Comment l'évolution est assez simple. Platon, à travers la bouche de Socrate, nous disait l'amour vient d'une Aphrodite céleste, d'une Aphrodite du ciel, et non pas de l'Aphrodite populaire. Plotin va nous dire, oui, cette Aphrodite céleste, c'est toujours mieux si on la vit très purement par un amour de l'âme et non pas par un amour du corps, mais il y a ce qu'il appelle un amour mixte qui est possible dans le cadre du mariage avec son épouse légitime. Et dans la pensée chrétienne, cette Aphrodite céleste, bien entendu, va devenir Dieu, va devenir un amour venu de Dieu, directement de Dieu. Donc un amour qui ne part plus de l'homme pour atteindre les beautés célestes, mais qui va inonder l'homme comme une grâce, cette grâce qui va devenir la charité dans le langage chrétien. Et cette grâce, comment est-ce qu'elle va venir sur l'homme? Comment est-ce qu'elle va permettre à l'homme de dépasser ses pulsions purement sexuelles, son désir physique naturel, qui était tout à fait normal? Et au moment du mariage, parce que, et là il va falloir 12 siècles à la chrétienté pour définir cela, au 12e siècle le mariage devient un sacrement, et lorsqu'il y a sacrement, il y a une grâce qui descend sur le couple, et cette grâce c'est la charité. C'est un côté un peu pessimiste, il faut une grâce céleste pour pouvoir supporter sa femme. Mais le côté optimiste, c'est de dire, grâce à cela, grâce au sacrement du mariage, l'homme peut enfin vivre, et je dirais pour la première fois de l'humanité, à l'intérieur du couple, l'amour le plus pur qui existe. Et ça, avec tous les inconvénients que l'on verra que ça a pu entraîner, c'est quand même un progrès moral, je dirais, dans la conception du couple et du couple marié. Au moment du mariage, la grâce descend sur le couple et il va pouvoir vivre cet idéal. Malheureusement, le problème, c'est que tout le reste va être classé du côté de la concupiscence et donc méprisé par la conception chrétienne. Et ces deux grandes tendances, je dirais la passion violente et l'amitié conjugale, vont influencer l'histoire de l'amour, je dirais, jusqu'à nos jours. Ce n'est que très récemment que l'on va pouvoir dire, mais oui, on peut vivre une passion amoureuse avec sa femme. C'est pratiquement l'époque contemporaine qui va vouloir vivre à l'intérieur d'un couple uni par les liens du mariage, une passion aussi forte que la passion socratique. Tout le reste, que soit l'amour courtois, c'est la passion, oui, mais c'est la passion adultère. Que soit l'amour romantique, c'est la passion, oui, mais qui débouche sur le suicide, pas sur le mariage. Tout cela, ce sont des passions qui se vivent hors mariage, et le mariage n'est jamais susceptible que d'une amitié amoureuse dans le style d'Aristote. Et c'est vraiment une découverte de l'amour contemporain, de vouloir vivre une passion aussi forte à l'intérieur du couple.
Georges Heide, professeur à l'Université catholique de Lyon, responsable des études doctorales à l'Institut des sciences de la famille, a analysé dans un ouvrage récent, publié chez L'Harmattan, l'évolution du couple à travers le concept d'intimité. Dans le passé, l'intimité était une notion impensable. Tout le monde était interdit d'intimité. Mais pour quelle raison, Georges Heide?
D'abord, parce qu'il y avait inégalité de statut. L'homme avait tout le pouvoir, la femme n'avait pratiquement rien. Elle était la propriétaire de l'homme, hein, pour dire les choses rapidement, et ce jusqu'au XIXe siècle, puisque Napoléon lui-même disait que la femme appartient à son mari comme l'arbre fruitier appartient au jardinier. Donc c'est clair, donc un rapport complètement, je dis bien complètement, inégalitaire. En plus, la sexualité de la femme était perçue comme une sexualité passive. Donc elle n'avait pas à prendre l'initiative, elle n'était pas perçue comme quelqu'un de dynamique dans ce domaine-là. C'était l'homme et l'homme seul qui était actif et qui devait l'être. Et du coup, donc, ça ne pouvait pas permettre, tout cela ne pouvait pas permettre l'émergence de l'intimité. Évidemment, le statut de la sexualité chez les Grecs et les Romains était un statut tout à fait positif. Mais dans un cadre de type inégalitaire entre l'homme et la femme. Et d'ailleurs, pas seulement entre l'homme et la femme, mais entre l'homme d'un côté, l'homme citoyen à part entière, c'est-à-dire le Grec ou le Romain, mais pas les autres hommes. Mais pas les autres hommes. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre côté, les esclaves, les femmes et les enfants. Donc, vous voyez, c'est clair, la relation était complètement inégalitaire.
Et pourtant, la sexualité dans l'Antiquité avait une connotation positive.
Absolument, puisque en tant que statut, je dirais en tant que statut, cette sexualité était perçue comme quelque chose de tout à fait épanouissant, puisqu'il s'agit d'une force qui émanait de l'intérieur de l'homme et qui lui permettait de s'épanouir. Donc c'était un statut, encore une fois, éminemment positif.
À condition de pouvoir dominer ses passions.
À condition que l'homme libre puisse continuer à se contrôler, à se maîtriser. Donc pas d'excès. À partir du moment où il n'y a pas d'excès, la sexualité avait donc ce rôle éminemment positif, encore une fois.
Donc ça, c'est la grande leçon du stoïcisme.
Le stoïcisme, au contraire, le stoïcisme va commencer
maîtrise.
À... oui, mais en même temps, ça c'est, je parlais des Grecs et des Romains, mais le stoïcisme va commencer à mépriser précisément la sexualité, le sexe.
Dans la mesure où elle n'est pas dominée.
Dans un premier temps. Et du coup, donc, on est basculé du côté positif au côté négatif avec le stoïcisme. Ce qui a préparé d'ailleurs l'appréciation de la nouvelle religion de l'époque, qui était le christianisme. Et la nouvelle religion de l'époque va continuer dans le même sens que le stoïcisme. Autrement dit, cette nouvelle religion va mépriser le sexe et la sexualité, et plus que mépriser. Parce que si je regarde l'histoire de la chute d'Adam et d'Ève, le statut de la sexualité va être complètement négativisé. C'est-à-dire que le sexe va être comparé au serpent, donc à une sorte de reptile. C'est la bête immonde en nous. Et en plus, on succombe à la tentation de la chair. Et ce péché originel, c'est-à-dire le fait de succomber à la tentation de la chair, non seulement va condamner l'individu qui succombe, mais ça va condamner toute l'espèce humaine. Donc vous voyez donc l'enjeu extraordinaire de ce péché de la chair qui est inouï, étant donné que c'est toute l'espèce humaine qui va être condamnée.
La femme est l'ennemi de l'homme et elle menace surtout la raison de l'homme.
Absolument, parce que la femme est du côté de la sensualité. La sexualité féminine, d'après le christianisme de départ, du début, donc la sexualité féminine est beaucoup plus puissante que la sexualité masculine, est beaucoup plus perverse, entre guillemets, dans le sens qu'elle est beaucoup plus proche de la nature. Et que donc la femme est beaucoup plus attentive à tout ce qui est péché de la chair. Et c'est elle, donc, d'après l'histoire de la chute, qui va tenter l'homme, ayant elle-même ayant été tentée par le serpent. D'ailleurs, il n'est pas étonnant, donc, dans ce cas-là, de voir que c'est la femme qui a été en premier et beaucoup plus facilement tentée par le serpent que l'homme.
Donc il ne peut pas y avoir au Moyen-Âge d'intimité entre l'homme et la femme, puisque la femme est totalement sous la dépendance de l'homme, et lorsque la femme est exaltée, elle est inaccessible.
Absolument. Donc,
c'est l'amour courtois.
C'est l'amour courtois, donc vers le 11e, 12e siècle, je crois, et quand la femme est exaltée précisément, elle est inaccessible. Elle est mise sur un piédestal, elle est intouchable. Donc vous voyez bien que du coup, il n'y a pas de possibilité d'intimité. Parce que qui dit intimité dit aussi, au moins au sens moderne du terme, l'intimité des corps. Et pas seulement l'intimité des esprits.
Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi, qu'est-ce qu'a dit la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu?
C'était l'histoire du couple, les deux Aphrodites, une émission de Françoise Esteb, avec Jean-Claude Bologne, auteur de l'histoire du sentiment amoureux chez Flammarion et de l'histoire du mariage en Occident, édition Lattès 95, pluriel Hachette 98. Et la participation de Georges Aide, auteur de « L'intimité ou la guerre des sexes », édition L'Harmattan. Texte lu par Bernadette Le Sachet. Mixage Bruno Roncière, Philippe Mécher. Réalisation Annie Flavel.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 11 février 2002. Vous pouvez la réécouter pendant 3 ans et la télécharger pendant 1 an sur le site franceculture.fr à la page des nuits.